I now give the
Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Winston Lakin, ministre des Affaires étrangères du Suriname.
President of the General Assembly.
Monsieur le Président de l'Assemblée générale, permettez-moi d'emblée de vous féliciter au nom du Président de la République du Suriname, son Excellence Monsieur Balthazar, ainsi que du peuple et du gouvernement du Suriname pour votre élection bien méritée à la présidence. Grâce à votre élection, vous honorez votre pays, Antigua et Barbuda, ainsi que les Caraïbes. Grâce à vos connaissances dans le domaine du développement durable, vous êtes fort bien préparé pour mener à travers ces délibérations sur le thème de cette année, le programme de développement de l'après-2015, à préparer le terrain. J'aimerais vous assurer de l'appui et de la coopération de ma délégation pendant votre présidence. Je saisis cette occasion également pour rendre hommage à votre prédécesseur, son Excellence Vuk Jeremic, pour la façon avec laquelle il a dirigé la 67e session de l'Assemblée générale. De plus, je félicite le secrétaire général, son Excellence M. Ban Ki-moon, pour la façon avec laquelle il gère les affaires des Nations Unies concernant la paix et la sécurité dans différentes régions du monde. Monsieur le Président, planter un nouveau décor exige beaucoup d'efforts au niveau national ainsi qu'au niveau international pour parvenir de façon urgente à l'objectif ultime d'améliorer le niveau de vie de nos peuples et de parvenir au développement durable de nos pays. Les objectifs du millénaire pour le développement sont un premier pas important pour examiner certaines des conditions, des pires conditions socio-économiques auxquelles se font face près de 40% de l'humanité. Et ces objectifs visent de façon générale à réduire les pires manifestations du sous-développement. À notre avis, le succès de ces objectifs du millénaire pour le développement dépend de deux séries d'actions simultanées. Premièrement, en réorientant les responsabilités nationales. Et deuxièmement, et également important, il y a la réorientation des responsabilités de la communauté internationale. Ces efforts nous permettront de déterminer une voie meilleure pour réaliser les différents objectifs et atteindre les buts des OMD et d'avancer vers le programme de développement pour l'après 2015. Ceci est particulièrement pertinent si on prend en compte le rapport sur les OMD de 2013 qui a présenté des faits assez intéressants, tels que la plupart des pays en développement avancent bien pour atteindre ces objectifs. Les pays développés se sont engagés vis-à-vis de l'objectif numéro 8, en honorant leurs promesses d'une aide qui soit viable et effective. La conclusion néanmoins, c'est que les pays développés accusent un grand retard dans leur performance pour atteindre les cibles. L'aide publique au développement cesse de décliner et les accords pris dans le contexte de l'OMC pour améliorer l'accès aux marchés internationaux conclu en 2001 et toujours dans l'impasse du cycle de Doha. Cette impasse s'est avérée si nuisible que discuter de l'accès au marché au nom des nations les plus pauvres a été tout simplement omis dans les ordres du jour suivant. De plus, la crise financière et économique en cours a, comme nous le savons tous, un effet néfaste sur les pays en développement, au point que l'APD est en train de se réduire de façon dramatique. Il est évident qu'un certain nombre de grands pays en développement, principalement en Asie, ainsi que d'autres pays dotés de ressources naturelles en Afrique et en Amérique du Sud, ont enregistré des progrès économiques substantiels. Les statistiques, néanmoins, ne doivent pas détourner notre attention du fait que l'inégalité est chronique et que près de 1,2 milliard de personnes continuent à vivre dans la pauvreté extrême et n'ont pas accès à des services de santé abordables et adéquats, alors que des millions d'enfants se voient dénier leur droit à l'éducation primaire. Monsieur le Président, nous avons appris les leçons importantes selon lesquelles les pays en développement sont obligés de prendre les mesures appropriées pour renforcer leurs interactions économiques entre elles, outre leurs liens avec leurs partenaires commerciaux traditionnels du Nord. Nous devons donner plus de substance à la coopération Sud-Sud. Il s'agit d'une question importante pour planter un nouveau décor pour le développement durable mondial. Et dans ce contexte, l'investissement étranger direct est considéré comme un facteur d'une importance vitale. Il est encourageant de noter qu'un nombre de pays, un certain nombre de pays, y compris le Suriname, sont sortis de la catégorie des pays à faible revenu et sont passés à la catégorie des pays à revenu intermédiaire par les institutions financières internationales et d'autres agences de l'ONU. Nos efforts de développement de politiques budgétaires et macroéconomiques prudentes et appropriées, ainsi que nos initiatives pour diversifier notre économie et les sacrifices consentis par notre peuple, ont donné lieu à ce statut amélioré. Appliquer les revenus par habitant en tant qu'indicateur principal pour la détermination de notre situation de développement nous a néanmoins mis dans une position où nous avons perdu l'accès à certains taux préférentiels nécessaires ainsi que des subventions. La conclusion peut être tirée que notre peuple est en train d'être puni pour sa capacité à surmonter certains des obstacles qui les avaient rendus moins chanceux dans le passé. Monsieur le Président, dans ce monde interdépendant, nous allons continuer à nous fonder sur nos propres forces en tant que moteur principal pour la réalisation de notre programme de développement. De plus, nous pensons que profiter de nos forces nationales dans le contexte de la participation dans les cadres de coopération sous-régionaux et régionaux est, à notre avis, la bonne voie en avant pour trouver des solutions appropriées pour notre développement. Sur la base de ce qui a été réalisé au niveau régional, une approche mondiale devient peut-être plus possible. Monsieur le Président, le Suriname est d'accord sur le fait que le programme de développement de l'après 2015 doit être basé sur une approche ayant la population au centre, avec une attention donnée aux plus vulnérables dans la société, notamment les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Ce faisant, nous soulignons le fait que nous devons trouver l'équilibre approprié entre notre situation macroéconomique positive et la micro-situation qui a urgemment besoin d'être améliorée. Monsieur le Président, Nous sommes en train de développer des politiques et des programmes pour lutter contre les maladies non transmissibles qui ont entraîné une diminution de la productivité. Ces maladies sont maintenant devenues la cause principale de mort au Suriname et dans d'autres pays de la région également. Un accent particulier est mis sur l'amélioration de l'éducation et pour la rapprocher de nos réalités socio-économiques. Nous avons l'intention de travailler plus étroitement avec des organisations internationales telles que PAO, OMS et UNESCO. Le gouvernement de la République du Suriname attache également une grande importance aux questions concernant les jeunes. Et à cet égard, je peux mentionner un programme après scolaire de grande ampleur dont l'objectif est d'améliorer l'apprentissage chez les jeunes. Les expériences positives des mécanismes de coopération régionaux tels que la CARICOM ainsi que celui qui est envisagé à Lunasur sont des exemples clairs de la façon avec laquelle les jeunes peuvent contribuer à la connectivité entre les peuples et le renforcement de l'unité. Monsieur le Président, en prenant compte des processus mondiaux et être conscient des possibilités et des défis de la CARICOM et de l'UNASUR, le programme de développement de l'après 2015 devrait émaner d'un processus intergouvernemental sans exclusion. Ce processus devrait viser à la poursuite de l'élimination de la pauvreté. Une approche centrée sur la personne, combinant des activités économiques avec les besoins sociaux, d'éducation et de soins de santé qui promeuvent le bien-être de tous et l'intégration des activités économiques et sociales et le renforcement du capital humain. Le réchauffement mondial a un impact négatif direct sur le développement des petits États insulaires en développement et des États côtiers de faible élévation, y compris le Suriname. Le Suriname partage sa grave préoccupation concernant l'état du climat mondial et la paralysie du processus de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le gouvernement du Suriname recommande vivement à cette auguste assemblée de relever ces défis en les intégrant dans le programme de développement de l'après 2015. Alors que nous préparons le terrain pour les objectifs de développement pour l'après 2015, nous pouvons ignorer les différentes menaces à la paix internationale. La paix internationale, la sécurité et les droits de l'homme sont indispensables pour créer un environnement propice pour le développement durable. Le Suriname est parfaitement conscient du fait que la souveraineté nationale et la sécurité nationale sont gravement touchés par l'utilisation aveugle de la violence dans la lutte contre le terrorisme et contre d'autres formes de criminalité organisée transnationale. De plus, les défis liés aux conflits armés, à la pauvreté, à l'alimentation, à l'environnement, à l'éducation, à la santé publique, les migrations et l'énergie exigent plus de collaboration. Et à cet égard, les partenariats entre les gouvernements, les organisations internationales et régionales et la société civile est également absolument nécessaire. Nous saluons les nations sud-américaines et des Caraïbes pour leurs efforts vers la paix et la stabilité régionale. Leur volonté, leur capacité à promouvoir le dialogue et la persuasion est une meilleure façon de réaliser et de maintenir la paix plutôt que le recours à la violence et aux interventions militaires. Nous sommes fiers d'appartenir à une région qui s'est proclamée zone exempte d'armes nucléaires. Nous exprimons l'espoir qu'une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien progressera et permettra au peuple des deux pays de parvenir à la paix et la prospérité. Le Suriname maintient la position selon laquelle un processus multilatéral au sein des Nations Unies doit prévaloir pour trouver une solution pacifique à la crise en Syrie. Monsieur le Président, le peuple cubain a le droit de participer en tant que membre à part entière de toutes les organisations régionales et nous demandons vivement que tous les obstacles qui ont empêché leur pleine participation jusqu'à présent soient levés, y compris l'embargo inhumain, économique, unilatéral, financier et commercial qui est complètement dépassé. En ce qui concerne la République d'Haïti, la communauté internationale a tendance à perdre de vue les activités de suivi nécessaires pour que Haïti puisse se remettre debout. Une fois de plus, nous appelons la communauté internationale à honorer son engagement. En conclusion, Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour informer cette auguste assemblée qu'il y a exactement 30 jours de cela, mon pays, le Suriname, a occupé la présidence temporaire de l'Union l'Union des Nations d'Amérique du Sud, l'UNASUR, un organe régional jeune et important. Et nous promettons que le Suriname, pendant sa présidence, fera progresser les objectifs de l'UNASUR et contribuera de cette façon aux objectifs de paix, de sécurité et de développement durable. Merci.